Donc, Guy Terroulaz est éthologue, directeur de recherche au CNRS, docteur en sciences et éthologie. Il dirige l'équipe Dynamique complexe et réseaux d'interaction dans les sociétés animales au Centre de recherche de la cognition animale à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Il travaille sur l'intelligence collective des sociétés animales, sujet fascinant, mais aussi pertinent en informatique, puisqu'on crée des flottes de swarm robots. Et effectivement, son livre Swarm Intelligence from Natural to Artificial Systems, je ne suis pas un grand fan des mesures de citation, mais celui-là dépasse les 8000, ce qui n'a absolument rien d'anodin en science. Donc voilà, il va nous parler de l'intelligence collective des sociétés animales.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Je veux d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes qui sont au cœur des phénomènes d'intelligence collective qu'on observe dans les sociétés animales, comme les insectes sociaux, certaines espèces de poissons, également d'oiseaux qui vivent en groupe. Et donc, vous verrez, nous sommes quand même assez loin des formes de langage qui ont été exposées durant tout ce colloque, puisque ces mécanismes reposent sur des formes de communication assez rudimentaires entre les individus. Mais vous verrez aussi que malgré leur simplicité, ces mécanismes vont permettre à des groupes d'individus de traiter collectivement de l'information et de coordonner leurs actions pour résoudre tout un ensemble de problèmes qui sont parfois assez complexes et auxquels ces animaux sont confrontés quotidiennement. Des individus qui parfois en fait n'ont tout simplement pas les capacités de résoudre ces problèmes à leur échelle. Et au cours des 30 dernières années, ces phénomènes ont suscité beaucoup d'intérêt, non seulement de la part des éthologistes, mais également des physiciens, car les sociétés animales sont des systèmes qui sont particulièrement intéressants pour aborder le problème de la complexité en biologie, et notamment le passage de l'individuel au collectif. Alors, vous êtes sans doute très nombreux, je pense, à avoir pu déjà observer les balais des tourneaux qui, à la tombée de la nuit, se rassemblent par milliers au-dessus de nos villes, et notamment dans le sud de l'Europe, pour trouver des sites de repos où ils vont passer la nuit. C'est un spectacle toujours fascinant, et il nous vient presque tout naturellement à l'esprit la question de savoir comment ces milliers d'oiseaux parviennent à se déplacer ensemble de manière aussi coordonnée et se comporter comme un seul et même super-organisme. Alors, ces phénomènes ont longtemps intrigué les ornithologues, et dans les années 30, certains auteurs, comme Edmund Selous, ont même suggéré qu'une aussi parfaite coordination des déplacements ne pouvait résulter que d'un transfert de pensée télépathique d'un oiseau à l'autre. Alors, à une autre échelle, cette fois chez les insectes sociaux, certaines espèces de termites et de fourmis construisent des nids d'une incroyable complexité. Vous avez ici des nids d'Apicotermes, qui sont vraiment des petits bijoux d'architecture. Et la taille de ces structures peut atteindre parfois, dans certains cas, plusieurs milliers de fois celle des individus qui les construisent. Là encore, comment des milliers d'insectes parviennent-ils à coordonner leurs activités bâtisseuses pour réaliser ces édifices? Et donc, comme chez les oiseaux, tout se passe comme si chaque colonie d'insectes se comportait comme un seul et même super-organisme et qu'il existait virtuellement au sein de ces sociétés une sorte de force mystérieuse capable de coordonner les activités de centaines de milliers d'individus. Et c'est cette force mystérieuse que le poète belge Maeterlinck a appelé au début du XXe siècle l'esprit de la ruche. Et au cours des 30 dernières années, on a pu décrypter certains des mécanismes qui gouvernent l'intelligence collective de ces super-organismes, ce qui a permis d'apporter des explications à des phénomènes qui pouvaient apparaître au premier abord comme assez mystérieux. Alors, tout d'abord, les deux exemples de super-organismes que je viens de vous citer ont la particularité d'être des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un grand nombre d'individus qui interagissent les uns avec les autres, soit directement, soit indirectement à travers les traces qu'ils laissent dans leur environnement. Et de ces interactions naissent des propriétés, qu'on appelle les propriétés émergentes, qu'on ne peut pas directement prévoir à partir de la seule connaissance du comportement des individus. C'est-à-dire que ces groupes et ces sociétés d'organismes ont la capacité de produire des comportements collectifs plus ou moins complexes. Vous avez ici quelques exemples, depuis des formes assez simples de déplacements coordonnés qui permettent par exemple à des groupes d'oiseaux ou à des bancs de poissons d'échapper à des attaques de prédateurs, jusqu'à des formes beaucoup plus élaborées qu'on retrouve chez les insectes sociaux, notamment dans la chasse, dans la récolte de nourriture, dans le choix des sites d'édification, dans le transport de charges, ou bien encore dans la construction et la défense d'un nid. Et donc, pour comprendre ces phénomènes, il nous faut décrypter les interactions entre les individus, identifier les informations qui sont échangées au cours de ces interactions, et enfin, il nous faut étudier les effets de ces interactions sur le comportement des individus. Et donc, pour cela, on dispose depuis quelques années de nouveaux outils qui vont nous permettre notamment de mesurer très précisément le comportement des individus et l'effet des interactions sociales sur leur comportement. Et ensuite, sur la base de ces données, on peut construire des modèles mathématiques qui vont nous permettre de comprendre comment ces interactions vont permettre à ces groupes d'animaux de coordonner leurs actions et de résoudre des problèmes collectivement qui très souvent dépassent donc les capacités de chaque individu. Et ces modèles vont donc nous permettre de faire le lien entre ces deux échelles d'observation, entre l'individuel et le collectif, et également de faire des prédictions quantitatives sur le comportement de ces groupes d'animaux. Alors, pour analyser les interactions qui interviennent, par exemple, dans la coordination des déplacements de poissons au sein d'un banc, on utilise des techniques d'analyse d'image automatisées, grâce auxquelles on peut suivre les déplacements de chaque individu dans un groupe, et en accumulant ensuite plusieurs dizaines d'heures de données sur des poissons qui nagent soit seuls, soit en paire dans un aquarium, on peut caractériser d'une part le déplacement spontané des poissons, identifier les stimuli potentiels auxquels un poisson va pouvoir réagir, comme par exemple la distance, l'orientation, la position relative, l'orientation relative également par rapport à un autre poisson, et mesurer les effets de ces informations sur la réponse comportementale du poisson qu'on observe. On va donc pouvoir reconstruire la forme des interactions sociales entre les poissons à travers l'analyse de leur comportement et également la forme des interactions entre un poisson et les obstacles qui sont présents dans son voisinage. Par exemple, chez cette espèce de poisson, petit poisson tropical qu'on appelle le nez rouge, Hémigrammus rhodostomus, et qui vit dans les cours d'eau du bassin inférieur de l'Amazone, on a pu mesurer très précisément et modéliser également très précisément les interactions qui sont impliquées dans la coordination des nages et dans le choix d'une direction de déplacement. Alors ces interactions, vous voyez ici, consistent essentiellement pour un poisson à être attiré et à s'aligner avec ses voisins, et l'intensité de ces interactions, que vous voyez ici là, sur l'axe des Y, c'est l'intensité, elle dépend à la fois de la distance entre les poissons, de leur position relative, également de leur orientation relative. Et on voit par exemple ici que la distance qui sépare deux poissons, quand la distance qui sépare deux poissons est très petite, eh ben, ils se repoussent, c'est-à-dire que l'attraction devient négative. Et on voit également que l'intensité de l'alignement domine, donc qui est représentée ici par cette courbe bleue, domine celle de l'attraction quand les poissons sont relativement proches, et puis l'attraction domine quand la distance qui les sépare augmente. Et de plus, les réponses comportementales des poissons sont très fortement modulées par l'anisotropie de leur perception. Vous voyez ici, sur cette figure centrale, que l'intensité de l'alignement des poissons, qui est représentée ici en bleu, en fait, est sur la direction de déplacement du congénère, donc est maximale quand le congénère se trouve à l'avant-gauche ou droit, et l'intensité ensuite de l'alignement décroît progressivement quand le congénère se situe à l'arrière du poisson. Donc il existe une très forte asymétrie dans les interactions entre les poissons qui interagissent fortement avec ceux qui sont situés à l'avant et très faiblement avec ceux qui sont situés à l'arrière. Et ensuite, l'implémentation de ces deux types d'interactions dans un modèle nous permet de vérifier qu'elles reproduisent effectivement les caractéristiques des déplacements de poissons quand ils nagent, par exemple, en groupe de deux dans une arène. Et quand on compare les expériences ici en rouge et bleu, ici et le modèle, eh bien on peut voir qu'il existe un très bon accord entre les deux, si on considère notamment la distance entre les deux poissons et également la distribution de leur orientation par rapport au mur. Et on peut voir aussi que dans les expériences et également dans les simulations du modèle, les poissons ont tendance à rester tout près du bord de l'arène et également proches les uns des autres. Mais vous voyez ici que le leader temporaire, qui est représenté ici en rouge, se trouve à l'avant suiveur qui, lui, ici, est représenté en bleu. Alors, ce que nous apprend également le modèle, c'est que lorsque l'intensité respective des interactions d'alignement et d'attraction change, le banc va adopter spontanément des types de déplacements collectifs très différents. Tout d'abord, quand l'intensité d'alignement est faible, et donc quelle que soit l'intensité de l'attraction, les poissons restent ensemble sans qu'il y ait véritablement de coordination. C'est ce qu'on appelle une phase de swarming, que vous voyez ici. Ensuite, quand l'intensité de l'alignement augmente, on voit des nages qui sont très polarisés, ce qu'on appelle du schooling en anglais, tous les poissons se déplaçant ensemble dans la même direction. Dans toute cette zone ici de combinaison d'interaction, d'intensité d'interaction, d'attraction et d'alignement. Et puis, pour certaines combinaisons d'intensité d'attraction et d'alignement, les poissons adoptent des formes de déplacement collectif circulaire dans lesquelles ils nagent en cercle autour d'une zone centrale vide. Et puis enfin, dans cette zone, ici, qui est figurée ici en rouge, qui est proche de la ligne séparant deux phases, les interactions peuvent conduire un banc de poissons dans un état qu'on appelle un état critique, dans lequel il va avoir une sensibilité et une réactivité extrême à la moindre perturbation. Et quand le banc se trouve dans cet état critique, eh bien, on a une corrélation des déplacements à l'échelle du banc dans son ensemble et le changement local du comportement d'un très petit nombre de poissons qui auraient par exemple détecté la présence d'un prédateur dans le voisinage peut faire très rapidement basculer le banc d'une forme de déplacement à une autre. Alors pour un banc, plus généralement donc pour un groupe animal, le fait que les paramètres qui contrôlent l'intensité des interactions soient proches d'un point ou d'une ligne critique, c'est un intérêt capital car ça lui permet de changer très rapidement de comportement collectif en fonction de ce qui se passe dans son environnement et ça donne l'illusion qu'il existe une transmission de pensée entre les individus. Et les paramètres typiques d'intensité qu'on a pu mesurer chez une autre espèce de poisson, la doula queue rubanée, qui vit le long des côtes de l'île de la Réunion, sont proches du point de rencontre des trois phases et donc proches des lignes critiques. Et on voit donc que cette forme d'intelligence collective assez élémentaire des bancs de poissons qui leur permet d'adapter collectivement leur comportement à ce qui se passe dans leur environnement résulte d'une combinaison bien particulière ici des interactions entre les poissons. Alors, mais c'est bien sûr chez les insectes sociaux qu'on va retrouver les formes les plus diverses et les plus élaborées d'intelligence collective. Et l'une des manifestations les plus spectaculaires de cette intelligence collective, c'est la capacité qu'ont certaines espèces d'insectes, comme les termites ou les fourmis, de construire des nids d'une remarquable complexité. Alors, coordonner les activités d'individus, de milliers d'individus sans plan, sans architecte, c'est un problème vraiment complexe et qui pose la question des mécanismes qui permettent aux insectes de réaliser ce type d'exploit. Et la première tentative d'explication un peu sérieuse de ces mécanismes, elle a été proposée à la fin des années 50 par Pierre-Paul Grasset, qui a introduit à cette époque le concept de stigmergie. Grasset a étudié comment s'effectuait la construction du nid chez les termites, et il a découvert que les insectes ne contrôlaient pas directement leur activité bâtisseuse, mais qu'ils étaient en quelque sorte guidés par le produit de leurs activités antérieures. C'est-à-dire que les individus coordonnent leurs activités au moyen d'interactions indirectes. Et c'est ce mécanisme que Grasset a appelé stigmergie, qu'il a construit à partir des mots grecs stigma, qui signifie piqûre, et ergon, qui signifie travail. Alors, comment ça fonctionne, cette stigmergie? Eh bien, c'est essentiellement un processus de type stimulus-réponse, c'est-à-dire que les traces qui sont laissées sur le sol par un insecte quand il se déplace, comme par exemple des pistes chimiques ou des ébauches de construction, qui résulte de son activité passée. Donc tous ces éléments vont constituer des sources d'information et de stimulation qui vont déclencher des comportements spécifiques chez les autres insectes de la colonie. Donc un insecte va alors modifier le stimulus qui a déclenché son comportement, ce qui va conduire à la formation d'un nouveau stimulus qui lui-même va déclencher de nouveaux comportements spécifiques et à leur tour ces comportements vont avoir pour effet de transformer le stimulus et ainsi de suite. Et ce processus, assez simple, peut conduire, sous certaines conditions, à une coordination de l'activité des insectes, tout en donnant l'illusion que la colonie suit dans son ensemble un plan prédéfini. Et donc, pour comprendre comment les insectes d'une colonie construisent leur nid, eh bien, on doit identifier et caractériser toutes ces boucles stimulus-réponse, puisqu'elles vont jouer un rôle clé dans la coordination des comportements des individus et, bien sûr, dans la croissance et la forme des nids. Alors, ces processus stigmergiques sont notamment impliqués dans la construction des nids chez les guêpes sociales. Chez ces guêpes, en fait, la majorité des nids sont construits à partir de fibres de bois mâchées, qui sont ensuite mélangées avec des sécrétions salivaires, ce qui permet à la guêpe de construire et de confectionner une petite boulette de carton. Et cette boulette va ensuite être modelée pour construire les différentes parties du nid, le pédicelle, qui permet de rattacher le nid au substrat, les rayons de cellules ou l'enveloppe externe quand il y en a une. Et au laboratoire, comme vous voyez ici, pour étudier ces phénomènes, on utilise du buvard coloré. Et en changeant régulièrement la couleur du buvard, on peut donc suivre les différentes étapes de la construction du nid. Et on va pouvoir étudier très précisément les comportements individuels et en particulier comment s'opèrent les choix des sites de construction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va déterminer une guêpe à construire à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Et par exemple, chez les guêpes polistes qui vivent dans le sud de la France, le processus de construction débute par la construction d'un pédicelle, donc qui permet de rattacher le nid au substrat externe. Ensuite, une première cellule est construite dans le prolongement du pédicelle. Et puis, au fur et à mesure de la construction, le nombre de sites potentiels au niveau desquels une nouvelle cellule peut être construite augmente. Et à partir de ce moment-là, plusieurs activités peuvent être accomplies parallèlement, ce qui fait que plusieurs guêpes vont pouvoir construire en même temps sur le nid, de sorte que la construction ne va plus suivre une séquence a priori bien définie. Et donc, à ce moment-là, l'organisation de la construction s'opère alors de manière complètement distribuée, et l'activité bâtisseuse des guêpes est en quelque sorte dictée par les configurations spatiales des cellules qu'elles vont pouvoir détecter au moyen de leurs antennes. C'est donc l'architecture elle-même, qui constitue une sorte de mémoire collective, qui va coordonner progressivement l'activité de la construction. Et donc chaque guêpe, vous voyez, va pouvoir travailler dans son coin sans se soucier de ce que font les autres au même moment sur le nid. Et donc pour déterminer à quel endroit les guêpes doivent construire une nouvelle cellule, elles utilisent les informations qui leur sont données par l'agencement local des cellules qui sont déjà construites. Et par exemple, sur ce petit nid, on peut voir qu'il existe 12 sites potentiels au niveau desquels les guêpes peuvent construire une nouvelle cellule. Mais tous ces sites ne sont pas équivalents. On voit que 7 sites possèdent une seule cloison adjacente, qui sera commune avec la future cellule. 4 autres sites ici ont 2 cloisons adjacentes. Et enfin, un dernier site possède 3 cloisons adjacentes. Et ces différents sites ne sont pas tous choisis de la même manière par les guêpes. Ce qu'on observe, c'est qu'elles préfèrent construire une nouvelle cellule au niveau des sites qui possèdent le plus grand nombre de cloisons adjacentes. Donc on voit que plus le nombre de cloisons au niveau d'un site est important, plus la probabilité qu'une guêpe construise une nouvelle cellule au niveau du site est élevée. Et ensuite, pour étudier les conséquences de l'application de ces règles de construction sur la croissance et la forme du nid, on va construire un modèle assez simple, ici, dans lequel les guêpes sont représentées sous la forme d'agents, dont le comportement est en quelque sorte calqué sur celui des guêpes naturelles. Et chacun de ces agents n'a qu'une perception très locale de son environnement. Pardon, je suis passé un peu vite. En fait, les agents ne perçoivent que les 20 cellules voisines de la cellule qu'elles occupent à un instant donné, et elles ne possèdent aucune représentation, aucun plan du nid qu'elles construisent. Ces agents utilisent simplement un ensemble de règles qui leur sont communes, un peu comme un jeu de Lego, et au cours de leur déplacement, ils vont percevoir donc des configurations de cellules déjà construites, et certaines de ces configurations vont déclencher la construction d'une nouvelle cellule à l'endroit qui est occupé par l'agent. Vous avez ici une représentation des règles qui sont utilisées dans la construction du nid par les guêpes polistes. Et ce que l'observation nous a également montré, c'est que ces règles sont stochastiques, c'est-à-dire que chaque guêpe exécute ses règles avec une certaine probabilité. Et dans le modèle, on va donc pouvoir utiliser les valeurs de probabilité qu'on a mesurées expérimentalement et qui sont associées à chacune de ces configurations qui sont détectées par la guêpe. Alors, la simulation du modèle permet ensuite de vérifier qu'elle reproduise. Alors, normalement, ici, il doit y avoir une vidéo, mais qui ne marche pas. C'est toujours le souci. Voilà. Qu'elle permette de reproduire effectivement la forme circulaire de ces nids de polistes, donc qui conduisent ici à la formation d'un plateau de cellules qui se développe de manière plus ou moins homogène à partir d'un pédicelle central. Et par contre, quand on change les valeurs des probabilités qui sont associées à chacune des configurations de cellules qui stimulent la construction, eh bien on voit que les structures qu'on obtient sont beaucoup plus irrégulières, avec de nombreux lobes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des structures qui ressemblent aux nids qui sont construits par d'autres espèces de polistes qui vivent dans le sud-est asiatique. Donc vous voyez que ces mécanismes permettent de construire des architectures qui peuvent nous apparaître au premier abord très différentes, sauf que les règles que les guêpes utilisent pourtant les mêmes règles, mais simplement les probabilités d'exécution de ces règles sont différentes. Et cette économie de codage, qui permet donc de passer très simplement d'une forme à une autre, est une propriété qu'on trouve également associée à beaucoup d'autres comportements collectifs chez les insectes sociaux. Et on a pu montrer, toujours grâce à un travail de modélisation, en fait, que le même type de mécanisme pouvait permettre à différentes espèces de guêpes de construire tout un éventail d'architectures assez complexes. Il existe environ une soixantaine de types architecturaux différents chez les guêpes, comme par exemple celle-ci qui possède une enveloppe externe à laquelle sont rattachés les plateaux de cellules, eux-mêmes perforés d'un canal de communication qui permet d'accéder à différents niveaux. Donc vous voyez quand même qu'on arrive à produire des choses relativement complexes à partir d'informations locales sur des configurations de matière assez simples. Alors ces processus stigmergiques sont également impliqués dans l'organisation de très nombreux autres comportements collectifs chez les insectes sociaux. Ils interviennent en particulier dans le recrutement, dans la formation des pistes d'exploration chez les fourmis. Mais dans ce cas, les signaux qui sont utilisés par les fourmis sont de nature très différente de ceux qui sont utilisés par les guêpes pour coordonner leur activité de construction, puisqu'il s'agit ici de signaux chimiques. Et ça va avoir un effet très important sur le type de dynamique et les propriétés qu'on va voir apparaître à l'échelle collective. Ces interactions vont conduire en effet à une autre famille de processus qu'on appelle des processus d'auto-organisation, qui gouvernent un très grand nombre de comportements collectifs dans les sociétés animales, depuis les colonies de bactéries jusqu'aux vertébrés supérieurs, y compris certains phénomènes collectifs chez l'homme. Alors, ces processus d'auto-organisation, ils reposent sur deux ingrédients de base qui sont des feedbacks positifs et des feedbacks négatifs. Feedbacks positifs vont permettre aux individus d'amplifier de l'information et de faire émerger des structures, comme ici ces pistes d'exploration qui se forment spontanément quand les fourmis d'Argentine explorent un espace vierge, ici une arène. Enfin, ces fourmis déposent tout au long de leur trajet des traces chimiques, qu'on appelle donc des phéromones, et qui vont pouvoir être détectées et suivies par leurs congénères. Et celles-ci vont également laisser leurs propres traces sur les zones qu'elles visitent et donc renforcer ces signaux. Et au cours du temps, on voit que tout le trafic va s'organiser sur les zones les plus denses en phéromones, ce qui conduit à la formation d'un réseau de pistes. Donc ces feedbacks positifs résultent ici directement du comportement de dépôt et de suivi de pistes à l'échelle individuelle. Quant au feedback négatif, eh bien, ils interviennent dans la stabilisation des structures produites, et ces feedbacks négatifs résultent généralement de pures contraintes physiques, comme ici par exemple l'évaporation de la phéromone, et elles ne sont donc pas, ces feedbacks négatifs ne sont donc pas explicitement codés dans les règles de comportement des insectes, contrairement aux feedbacks positifs. Et donc c'est principalement grâce à ces processus d'auto-organisation que les insectes sociaux ont pu développer une forme d'intelligence collective construite à partir de comportements et d'interactions extrêmement simples à l'échelle individuelle. Ces processus vont permettre notamment aux insectes de prendre collectivement des décisions quand ils sont confrontés à des choix. Et l'un des exemples les plus célèbres, c'est la capacité qu'ont certaines colonies de fourmis de sélectionner collectivement le chemin le plus court qui relie leur nid à une source de nourriture. C'est un phénomène qui a été bien étudié dans les années 80 par Jean-Louis Denebourg et son équipe à l'Université libre de Bruxelles. Ils ont réalisé tout un ensemble, toute une série d'expériences dans lesquelles ils ont connecté entre le nid et une source de nourriture des ponts à deux branches, dont l'une ici est deux fois plus grande que l'autre, ce qui permet de créer deux voies d'accès distinctes à la source de nourriture. Et ils ont pu constater que les fourmis avaient la capacité de sélectionner le chemin le plus court qui conduit vers la source de nourriture. Alors, ces résultats s'expliquent très simplement. En fait, les fourmis qui empruntent le chemin le plus court reviennent au nid beaucoup plus rapidement, ce qui fait que les pistes de phéromones, les pistes de recrutement, grandissent à des vitesses différentes sur les deux branches. Il faut beaucoup moins de temps aux fourmis pour amplifier l'information sur le chemin le plus court, ce qui conduit finalement au choix collectif de la branche la plus courte. En fait, on peut considérer qu'une grande partie des choix collectifs qu'on observe chez les insectes sociaux résulte d'une forme de sélection naturelle de l'information. C'est l'information qui réussit à être amplifié le plus rapidement qu'il l'emporte, ce qui a pour effet ici de concentrer tout le trafic sur une seule des deux branches en compétition. Alors ces processus d'auto-organisation, ils jouent également un rôle très important dans la régulation des tâches dans la colonie, en déterminant qui fait quoi et à tel moment. Ils sont également impliqués dans la construction du nid chez les termites et les fourmis. Vous avez ici un nid construit par la fourmi des jardins, l'Asus niger, dont les colonies comprennent environ 5 à 10 000 individus. Et ce que vous pouvez voir ici sur cette tomographie, c'est la structure interne du nid qui ressemble un peu à celle d'une éponge, avec un grand nombre de chambres qui sont en forme de bulles, qui sont étroitement imbriquées les unes aux autres. Et ce qu'on peut également noter dans les parties centrales du nid, c'est la présence d'une organisation des chambres selon des plans parallèles et superposés, comme ici, avec également des connexions entre les différentes chambres et une continuité des cloisons entre deux étages successifs. Donc là, vous voyez ici l'intérieur du nid, on a reconstitué à partir de tomographie. Alors ces nids sont construits à partir de l'agrégation de boulettes de terre, et on a pu étudier en détail ces comportements de construction avec un dispositif dans lequel des groupes de fourmis ont accès à une boîte de pétri avec qui contient en fait une fine couche de terre humidifiée. Et quand on éclaire en permanence le dispositif, on stimule très fortement l'activité de construction des fourmis qui vont essayer de se construire un abri pour se protéger de la lumière. Mais comme la quantité de terre donc, qu'on leur donne est limitée, eh bien, le processus s'arrête juste après les toutes premières étapes de construction du nid, ce qui conduit, comme vous voyez ici, à la formation de piliers et de murs régulièrement espacés. Alors, ce qui est frappant, c'est l'extrême simplicité des règles, des interactions, des règles de comportement qui sont utilisées par les fourmis pour construire leur nid. Ces règles sont essentiellement au nombre de 3, et on a pu les caractériser, les quantifier, les modéliser très précisément. D'abord, prendre des boulettes de terre, les imprégner d'une phéromone qui va pouvoir être détectée par les fourmis et guider leurs actions. Ensuite, déposer ces boulettes dans les zones riches en phéromones, où d'autres boulettes ont été récemment déposées. On voit ici que la probabilité qu'une fourmi dépose une boulette sur un tas augmente plus ou moins linéairement avec le nombre de boulettes déjà déposées. Donc la phéromone de construction stimule le dépôt, ce qui crée un feedback positif. Et dans le même temps, cette phéromone, vous voyez ici, va inhiber le comportement de prise de boulettes de terre. Et on voit que ici, que plus le nombre de boulettes détectées par une fourmi est important, donc plus la zone est riche en phéromones, et bien plus la probabilité de prise diminue dans cette zone. Et puis, lorsque les piliers qui résulte de l'amoncellement de ces boulettes, atteignent une hauteur qui correspond approximativement à la longueur moyenne du corps d'une fourmi, et bien la troisième règle consiste à aller déposer des boulettes latéralement. Donc les fourmis, à ce moment-là, utilisent leur corps comme une sorte de gabarit pour déterminer à partir de quel moment elles vont cesser d'accumuler en hauteur et commencer à déposer des boulettes latéralement pour commencer à construire les voûtes et les chambres. Alors ces trois règles de comportement et les interactions qu'ont les fourmis avec les structures qu'elles construisent vont leur permettre de coordonner leurs actions sans avoir besoin d'échanger directement de l'information. Là encore, c'est essentiellement à travers les traces qu'elles laissent dans leur environnement que les fourmis coordonnent la construction de leur nid. Et ensuite, on a pu modéliser ces processus de construction et on a pu montrer que la combinaison de ces trois règles conduit effectivement à la construction de piliers régulièrement espacés, puis de chapiteaux au-dessus de ces piliers dont la forme reproduit celle qu'on observe dans les expériences. Et vous avez ici par exemple un exemple de simulation du modèle dans lequel on a transposé ces règles de construction. Je vais peut-être le repasser. Voilà. Les fourmis, ce sont ces petits cubes rouges qui se déplacent aléatoirement, donc ils prélèvent des boulettes de terre sur le sol, ensuite par hasard, quand la quantité de boulettes en un endroit est suffisamment élevée, ces zones deviennent des germes à partir duquel les fourmis entassent d'autres boulettes, construisent des piliers. Et par la suite, quand la taille des piliers est suffisamment grande, les fourmis commencent à réaliser des dépôts en hauteur. Et à la fin, on obtient ces structures globulaires et massives qui surplombent les piliers. Puis quand deux structures globulaires, qu'on appelle aussi des chapiteaux, sont proches l'une de l'autre, ils peuvent fusionner, créer une arche voûtée et puis progressivement une chambre. Et ensuite, on peut comparer, là encore, la forme des structures produites dans le modèle à celle obtenue dans les expériences, dans les mêmes conditions, et vérifier que les interactions et les comportements qu'on a implémentés dans le modèle reproduisent fidèlement la dynamique de construction et la forme des nids construits par les fourmis, en particulier si on considère ici l'évolution du nombre moyen de piliers construits au cours du temps par les fourmis ou la distance moyenne entre deux piliers voisins, vous voyez que le modèle reproduit très fidèlement le type de dynamique qu'on observe dans les expériences. Et ce que le modèle nous a également permis de mettre en évidence, c'est le rôle de la phéromone qui est ajoutée par les fourmis au matériel de construction dans l'adaptation de la forme du nid au changement de conditions environnementales. En effet, selon les conditions climatiques, la phéromone va se dégrader plus ou moins rapidement, ce qui va conduire les fourmis à construire moins de piliers dans un environnement sec, comme vous voyez ici. Les chambres qui sont construites sont alors beaucoup plus grandes et les fourmis peuvent s'y agréger en grand nombre pour conserver le peu d'humidité disponible. Et à l'inverse, dans un environnement humide, la phéromone persiste plus longtemps, ce qui conduit à construire un nombre plus élevé de piliers et les chambres sont plus petites. Donc vous voyez qu'une simple modulation de la durée de vie de la phéromone par les conditions environnementales, va permettre d'adapter la forme du nid sans que les fourmis aient besoin pour ça de changer leurs règles de construction. Et d'un point de vue fonctionnel, on voit donc qu'en conservant les mêmes règles de comportement à l'échelle individuelle, on obtient automatiquement une transition entre les formes produites simplement en changeant le taux d'évaporation de la phéromone. Donc on voit que ces processus d'auto-organisation permettent à une colonie de produire des structures dont la forme va changer en fonction des conditions de l'environnement, et ces processus permettent aussi une très grande économie de codage des mécanismes qui, à l'échelle individuelle, permettent à ces insectes de coordonner leurs activités, de construire collectivement des nids qui, chez certaines espèces, peuvent atteindre un très haut niveau de complexité et de sophistication. Alors pour résumer, eh bien on peut dire que les capacités qu'ont certaines espèces animales vivant en groupe ou en société à coordonner leurs activités individuelles et à résoudre collectivement tout un ensemble de problèmes reposent sur la combinaison d'interactions directes ou indirectes, vous en avez présenté quelques exemples, entre les individus. On commence à entrevoir la logique générale derrière, donc qui conditionne en fait la forme spécifique de ces interactions, même si on est encore très loin d'avoir une cartographie complète des différentes familles d'interactions. En tout cas, on dispose aujourd'hui des outils et des méthodes qui nous permettent de décrypter les interactions chez un très grand nombre d'espèces, et d'ailleurs y compris l'homme. Et par exemple, chez les insectes sociaux, on connaît aujourd'hui les interactions qui sont impliquées dans de nombreux comportements collectifs, et un grand nombre de ces interactions conduisent à des processus d'auto-organisation. Dans ces processus, les signaux qui sont échangés entre les insectes au cours de ces interactions permettent d'amplifier certaines informations à l'échelle d'une colonie et de construire des réponses collectives qui dépassent de très loin les capacités propres à chaque individu. Et enfin, on connaît aujourd'hui un certain nombre d'exemples d'animaux vivant en groupe, depuis des essaims de moucherons jusqu'à des troupeaux de moutons, où les interactions entre les individus confèrent au groupe, dans son ensemble, des propriétés qui sont analogues à celles d'un système physique proche d'une transition de phase entre deux états macroscopiques, et notamment une sensibilité extrême à des petits changements de comportement d'un très petit nombre d'individus dans le groupe. Et la réaction de ces individus, grâce aux interactions, va pouvoir ensuite se propager à tous les membres du groupe, ce qui leur permet de réagir efficacement à des perturbations extérieures, et notamment quand un prédateur est détecté dans le voisinage. Et chez les moutons, par exemple, on a pu montrer que l'intensité avec laquelle les individus s'imitent les uns les autres conduit le troupeau à être dans un état critique, tout en optimisant deux conflits à l'échelle individuelle. D'une part, le besoin de se disperser, donc maximiser la surface de pâturage explorée par chaque mouton, et d'autre part, le besoin de minimiser le temps nécessaire pour se regrouper en cas de danger. Et donc, vous voyez qu'à travers ces exemples, la sélection naturelle a pu s'exercer non seulement sur la forme des interactions entre les individus, donc, qui conduisent à ces propriétés, mais également sur l'intensité propre de ces interactions pour que ces groupes puissent présenter ces capacités collectives d'adaptation. Voilà, pour finir, je voudrais citer toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces travaux, à la fois chez les fourmis et les poissons, qui travaillent dans mon groupe à Toulouse, car tout ça reste un travail collectif, un travail d'équipe. Daniel Calovi, Valentin Lecheval, Andrea Pernat, Jacques Gautret, Christian Jost, Yann Huskong, dans mon groupe à Toulouse, et puis également deux physiciens avec qui on travaille depuis plusieurs années, donc Hugues Chatté, qui travaille au CEA à Saclay, Clément Cyr, au laboratoire de physique théorique à Toulouse, et puis deux informaticiens, Pascal Kunz et Fabien Picaroun, à l'École polytechnique de l'Université de Nantes. Je vous remercie.